Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 31e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Godefroy Guillaume Leibniz et la question « La connaissance véritable ne peut-elle être qu'intérieure ?» S'il y a des génies universels, Leibniz, polymathe et polyglotte, est sans doute l'un d'entre eux, peut-être le dernier. Philosophe, philologue, scientifique, mathématicien, logicien, diplomate, juriste, historien, bibliothécaire, traducteur, il est allemand, mais écrit la majeure partie de son œuvre en latin et en français. Inventeur du calcul intégral, il est aussi le théologien de l'harmonie préétablie et de ce « meilleur des mondes possible » tant raillé par Voltaire dans le « Candide ». Il est surtout le penseur le plus radical de la distinction et de l'individualité à travers le concept de monade, souvent mal interprété. C'est cette monadologie qui va nous intéresser aujourd'hui. L'idée que chaque être forme une substance absolument simple et indivisible, de nature plus ou moins spirituelle, qui obéit à une loi interne de développement. Chaque monade étant fermée sur elle-même, le monde extérieur ne peut être connu qu'intérieurement. Attention, le passage que nous allons entendre est très abstrait, mais notre discussion s'efforcera de le montrer, il renvoie à une expérience très concrète et à une manière de voir la réalité qui n'est pas sans rappeler les poupées russes. Écoutons donc les premières lignes de la monadologie de Leibniz.
1. La monade, dont nous parlerons ici, n'est autre chose qu'une substance simple qui entre dans les composés. Simple, c'est-à-dire sans partie. 2. Et il faut qu'il y ait des substances simples, puisqu'il y a des composés. Car le composé n'est autre chose qu'un amas ou agrégat des simples. 3. Or, là où il n'y a point de partie, il n'y a ni étendue, ni figure, ni divisibilité possible. Et ces monades sont les véritables atomes de la nature et en un, les éléments des choses. 4. Il n'y a point de dissolution à craindre et il n'y a aucune manière concevable par laquelle une substance simple puisse périr naturellement. 5. Par la même raison, il n'y en a aucune par laquelle une substance simple puisse commencer naturellement, puisqu'elle ne saurait être formée par composition. 6. Ainsi, on peut dire que les monades ne sauraient commencer ni finir que tout d'un coup. C'est-à-dire, elles ne sauraient commencer que par création et finir que par annihilation, au lieu que ce qui est composé commence ou finit par partie. 7. Il n'y a pas moyen aussi d'expliquer comment une monade puisse être altérée ou changée dans son intérieur par quelque autre créature, puisqu'on n'y saurait rien transposer, ni concevoir en elle aucun mouvement interne qui puisse être excité, dirigé, augmenté ou diminué là-dedans, comme cela se peut dans les composés, où il y a des changements entre les parties. Les monades n'ont point de fenêtre par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. Les accidents ne sauraient se détacher ni se promener hors des substances comme faisaient autrefois les espèces sensibles des scolastiques. Ainsi, ni substance ni accident peut entrer de dehors dans une monade.
Fabrice Adjadj, ces monades sont les véritables atomes de la nature, en un mot, les éléments des choses. Quel est le contexte de ce texte?
Bon, c'est un texte de Leibniz qui est un texte extrêmement aride. Hein. Ce n'est pas le cas d'autres textes qui ont un caractère, je dirais, littéraire plus ample. C'est vraiment une sorte de traité de métaphysique avec un terme très étrange, un monade, c'est-à-dire du mot qui veut dire un, comme dans monothéisme, qui veut aussi pouvoir dire seul, comme moine. Et l'idée, hein, c'est que le monde est constitué de monades, donc on a une forme d'atomisme, mais ça n'est pas l'atomisme matérialiste qu'on a depuis Démocrite, hein, ou chez Lucrèce, c'est un atomisme spiritualiste. Le modèle de la monade, c'est le moi. Non, c'est pas... Leibniz est un des seuls penseurs modernes à essayer d'expliquer l'inférieur supérieur. Le propre de la modernité, la tendance, c'est à essayer d'expliquer des phénomènes, voilà, la vie par l'inerte, hein, l'esprit par l'animal. Bon. Ce qui n'est pas dans le cas dans la dualité cartésienne, mais enfin, bon, y a toujours cette tendance d'expliquer le supérieur par l'inférieur, de réduire tous les phénomènes de l'intelligence au cerveau, le cerveau à des phénomènes physico-chimiques ou électriques. Alors que Leibniz dit non. La réalité, la première réalité, et c'est celle que nous expérimentons, c'est une réalité spirituelle, c'est notre pensée. Et tout ce qui est inférieur, ce sont, vous voyez, comme des formes de conscience, de pensée, voilà, qui sont plus basses. Donc il n'y a rien qui ne soit, d'une certaine façon, comme des déclinaisons, voilà, et des diminutions de l'esprit. Donc c'est un atomisme spirituel. Alors on y reviendra, mais vous allez quand même nous dire quelques mots de ce grand personnage qu'est Leibniz, que vous n'avez pas appelé Gottfried Wilhelm, mais Godefroy Guillaume, puisqu'il a écrit cette monadologie en français.
Exactement. C'est le fils d'un professeur de philosophie morale qui va faire des études de philosophie et de droit. Alors, après avoir obtenu son habilitation en philosophie, il va faire un doctorat en droit. Et donc, à 21 ans, à Alsdorf, il va soutenir sa thèse et il va avoir droit à un standing ovation de la part de son jury, puisqu'il va il va soutenir sa thèse entièrement en vers et sans notes. Chose qui est tout à fait remarquable, effectivement. Il lit beaucoup, il se forme par ses différentes lectures, et puis il va fréquenter différents scientifiques et auprès d'eux chercher à apprendre leur spécialité. Et donc il devient très très compétent dans énormément de domaines, comme j'ai pu le citer en introduction. Et puis la maison de Hanovre, qui deviendra ensuite la maison royale d'Angleterre, va l'employer comme bibliothécaire pour ses grandes connaissances. Mais assez rapidement, son génie va le faire remarquer et il va devenir le conseiller politique de la maison d'Hanovre, poste qu'il va occuper durant pratiquement 40 ans. Et en tant que diplomate au service de la maison d'Hanovre, il va énormément voyager. Il va correspondre avec le monde entier, notamment avec Malebranche, dont nous parlions la semaine dernière. Et actuellement, la collection de ses lettres, qui est conservée à la bibliothèque de Alsdorf, contient plus de 15 000 lettres avec plus de 1100 correspondants différents, dont 3 correspondants en Chine. Donc vraiment, il a correspondu avec tout le monde connu de son époque.
Oui, et donc c'est un écrivain exceptionnel, enfin, qui écrivait d'ailleurs dans plusieurs langues, et qui s'est même effectivement intéressé au chinois. Donc c'est ce qu'on disait, il y a une sorte de fécondité chez lui énorme.
Complètement énorme, exactement. Et sur tellement, enfin, il écrit, il correspond avec les plus grands spécialistes à niveau égal dans tous les domaines.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment un esprit.
D'ailleurs, il a ses liens avec Newton, notamment autour de la question du calcul intégral.
Exactement. Ses premiers écrits sont davantage scientifiques, et puis de plus en plus, vers la fin de sa vie, les écrits vont prendre une tournure plus philosophique, plus théologique, et aussi davantage historique. Il va faire énormément de recherches généalogiques, notamment sur les différentes maisons de Prusse et sur les différents états électeurs ou non-électeurs. Et jusqu'au tournant du XVIIIe siècle, il va vraiment être reconnu comme le plus grand intellectuel d'Europe, étant président de nombreuses académies de sciences, étant conseiller de plusieurs cours, même du tsar. Mais la controverse avec Newton, qui arrive au début des années 1710, va vraiment lui mettre du plomb dans l'aile. Et donc, il est accusé d'avoir volé les idées de Newton et d'avoir promulguer en son nom le calcul infinitésimal, alors que ce serait une invention de Newton. Aujourd'hui, les historiens de la science ont montré que les deux esprits ont développé simultanément une même théorie et qu'il n'y a aucune interaction entre les deux, donc que Leibniz n'a pas du tout copié Newton, mais à l'époque, il va vraiment être rejeté peu de temps avant sa mort.
Comme un plagiaire.
Exactement, comme un plagiaire. Et puis, il va être raillé, chose étonnante, pour son style, parce qu'il ne s'est jamais intéressé au style vestimentaire. Il s'habille encore en 1710 comme en 1670. Et à cause de ça, il va être mis de côté à la cour de Hanovre, et pour une raison complètement secondaire. Et donc, il va mourir seul, avec son secrétaire. Et la maison de Hanovre n'enverra aucun envoyé pour représenter la maison à ses funérailles. À ses funérailles, il n'y aura que le pasteur et son secrétaire.
Donc il aura connu une immense ascension, reconnaissance, puis de son vivant, une déchéance.
Quoi, voilà, c'est ça. Ouais, le plus grand esprit d'Europe meurt comme un personnage complètement insignifiant.
Alors, question, parce que quand même, il a une œuvre immense, et notamment une œuvre qui est une œuvre de défense aussi de la foi chrétienne. Notamment les essais de Théodicée, dont on parlera la semaine prochaine. Quel est son rapport? Parce qu'il est, de naissance protestante.
Il est luthérien.
Il est luthérien.
On ne sait pas trop. Certains le pensent crypto-catholique, mais lorsque Georg de Hanovre devient George d'Angleterre, et donc il part en Angleterre, et ne veut pas que Leibniz le suive. En 1714, Leibniz se dit « Bon, bah, je pourrais aller en France, à la cour du roi Louis XIV qui m'a invité, et continuer mon œuvre là-bas. » Mais la chose qui va le retenir, on est avant un an avant la mort de Louis XIV, donc peut-être qu'il a eu raison de ne pas y aller, mais ce qui va le retenir, c'est qu'il faudrait, il faudrait qu'il se convertisse au catholicisme, ce qu'il n'a absolument, apparemment, pas du tout envie de faire. Donc, il semblerait qu'il soit... rester fidèlement luthérien toute sa vie.
Oui,
pourtant, il a des écrits dans lesquels il semble en effet défendre la papauté. Il semblerait même qu'il ait soutenu que la thèse de la transsubstantiation ne soit pas complètement incompatible avec la physique moderne. Donc il y a, enfin, il n'a en tout cas pas du tout un esprit fermé ou hostile au catholicisme.
Oui, c'est ça. C'est ça, et c'est même, on pourrait dire, une des grandes figures, non seulement de l'œcuménisme, mais aussi du dialogue avec les religions, puisqu'il va s'intéresser aussi à l'islam, qu'il aura une très belle lettre sur le mahométisme, etc. Alors, bien sûr, là on est quand même face à un texte qui est un texte extrêmement difficile et qui ne... souvent, les philosophes se précipitent sur ce texte, mais qui ne rend pas compte, effectivement, de toute l'ampleur du génie de Leibniz, et qui nous donne un peu une sorte de squelette métaphysique, voilà, et pas du tout évident à comprendre. Voilà.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, la connaissance véritable ne peut-elle être qu'intérieure ? Fabrice Hadjadj, j'aimerais commencer par juste tenter d'éclairer ce composé de monades à partir des deux premiers énoncés que nous propose, enfin des trois premiers énoncés que nous propose Leibniz ici. La monade serait le composé de base.
Composé de base, la base des composés plutôt.
Bah, justement, c'est un peu la question, puisque s'il y a des composés, les composés n'est qu'un agrégat de simples. Et les simples, ce serait la monade.
Voilà.
Donc il semblerait qu'il y ait plusieurs monades dans un composé, parce que c'est un agrégat de simples, et en même temps, il semblerait qu'il y ait une seule monade par composé.
En fait, bon, Leibniz est un héritier de la physique cartésienne. C'est-à-dire une physique où il n'y a que de l'étendue, on pourrait presque dire même une étendue qui pourrait être divisible à l'infini, si c'est l'étendue géométrique, hein, et où en fait... plus rien risque, enfin, les choses risquent de ne plus avoir de consistance en elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a, plus de forme substantielle, en fait, dans la pensée de Descartes. Il n'y a que si les animaux sont des machines, si les plantes sont des machines, ce ne sont que des agrégats. Et donc, la question chez Leibniz, c'est quelle est la nature de la forme des êtres? Est-ce que la forme, d'où elle vient? Et alors, la forme est toujours, d'une certaine façon, une idée, on pourrait dire, c'est ça la monade, hein, une idée indivisible, voilà, qui s'empare, on pourrait dire, de la matière, mais qui est en fait l'élément fondamental. Donc, vous avez raison de dire que on peut voir les monades les plus basses, qui seraient les atomes au sens matériel, mais par exemple, s'il y a réellement un chien dans la nature, avec son unité de chien, eh bien, il y a une monade du chien. Voilà. Et un peu comme les idées platoniciennes, quoi. Cette idée qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas, voilà, mais qui, là, est prise dans un sens très concret, parce que ça veut dire que Dieu la crée et Dieu la fait disparaître quand le chien meurt, voilà. Donc c'est pas la simple idée platonicienne avec une participation. Et au fond, dans cette pensée de Leibniz, c'est aussi que chaque individu forme vraiment une réalité à part entière. C'est-à-dire, c'est même pas le chien, tel autre chien. Voilà. Et en fait, quel est le modèle de cela? C'est l'intériorité. C'est-à-dire qu'en fait, pour Leibniz, donc il y a ce phénomène effectivement de poupée russe. C'est vrai que mon corps est composé de monades, mais moi, je ne suis pas composé de monades. Et ma monade, voilà, inclut effectivement ce corps, mais dans une unité qui elle-même reste en elle-même indivisible. Donc c'est ça ce qui est pensé par Leibniz. Mais ça veut dire aussi qu'il y a entre vous et moi, vous êtes un monde. Et c'est ça qui est très intéressant chez Leibniz. C'est-à-dire que c'est une vision du réel où chaque être est un monde. Et où le monde entier, en fait, se rejoue à l'intérieur, enfin dans le monde intérieur de chaque être. Vous voyez, on pourrait dire que ça n'est qu'un monde perceptif, un espace-temps. On a pu en parler quand on a travaillé sur les animaux autrefois. Vous savez, les écrits que chaque animal est un sujet et que la tique, par exemple, avec les quelques sens qu'elle a, ben, le monde tout entier se répercute en elle. Elle a son monde à elle. Mais l'idée de Leibniz, c'est qu'il n'y a pas à proprement parler de monde extérieur, mais que chaque type d'être intériorise, voilà, d'une certaine façon, le monde. Et donc, alors, pour nous, c'est quelque chose de très étonnant, ça ressemble un peu, en fait, à ce que Thomas d'Aquin dit des anges. Les anges ne connaissent pas le monde par des sens qui perçoivent la réalité extérieure, ils enveloppent le monde, et plus l'ange est élevé, plus d'une certaine façon, il enveloppe le monde davantage, et il enveloppe l'ange inférieur, et l'ange, voilà. Et l'ange, pour connaître les choses, n'a qu'à regarder en lui-même, il n'a pas à se tourner vers quelque chose d'extérieur, puisqu'il n'est pas un corps. Eh bien, cette idée-là, c'est l'idée qu'a Leibniz à propos de tout être. C'est-à-dire, vraiment, le monde, c'est seulement... c'est la réalité telle que Dieu me la donne à moi. Et c'est moi qui constitue le monde. Ça ne veut pas dire que je suis le seul à exister, non. Mais c'est que Dieu, en me créant, crée avec moi une manière de résumer et de rassembler le monde. Et donc, je ne connais pas de monde extérieur. Je ne vous connais qu'en recevant moi-même, voilà, ce que vous êtes. Voilà, c'est ça la thèse de Leibniz.
Oui. Donc, ce qu'il dit, c'est que la monade, aucune monade ne peut être altérée ou changée par quelque autre créature, donc il faut l'intervention du créateur. C'est un peu comme Descartes qui avait besoin pour prouver le monde extérieur
Oui, c'est pas l'occasionnalisme de Malebranche. C'est pas l'idée que pour que je puisse connaître quelque chose d'extérieur et être ébranlé, il faut que Dieu agisse. Mm-hmm. Ici, c'est vraiment que non, c'est vraiment mon activité. C'est pour ça que Leibniz s'est opposé à l'occasionnalisme de Malebranche très très violemment. Et c'est une thèse qui est en lien avec l'harmonie préétablie, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait croire que, enfin, nous interagissons, c'est vrai. Mais en fait, dans votre monde, toutes les actions que je suis en train de faire ont été préétablies aussi en vous pour que vous les receviez, d'une certaine façon. Mais en fait, il n'y a pas... mon extériorité, vous êtes antérieure. Ben, c'est ça la thèse, et c'est un ajustement qui est fait par Dieu. C'est-à-dire que Dieu a tout coordonné, bien sûr, avec en plus nos libertés, attention, hein, c'est pas qu'il n'y a pas de liberté, mais il a tout coordonné dans sa transcendance. Mais en réalité, il n'y a qu'une intériorité. Enfin, à chaque fois, il n'y a que d'une intériorité solidaire. Alors, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que il me semble, parce que j'ai pensé à Leibniz en lisant ces derniers temps La recherche du temps perdu, chez Proust. Proust a l'air d'être complètement leibnizien. Il dira d'abord que voilà, les grands artistes, quand ils parlent du peintre Elstir, il dit cette fleur, pour qu'il puisse la peindre, c'est pas l'extérieur simplement, c'est qu'il a dû la replanter dans son jardin intérieur. Et c'est à ce moment-là qu'il a produit l'œuvre d'art. Mais le monde de Proust, c'est un monde où, dès qu'on cherche à connaître les autres de l'extérieur, dès qu'on cherche à les voir, en fait, c'est superficiel. Et même l'autre n'a pas accès à son intériorité. Et ce qui nous révèle d'ailleurs le fait qu'on n'y a pas accès, c'est un, la mondanité, où tous les signes de la mondanité sont faux. Deux, l'expérience de la jalousie, qui fait que l'autre, tous les signes qu'il nous donne peuvent être trompeurs, on ne sait pas très bien, voilà. Beaucoup d'expériences qui font qu'en réalité, les choses nous sont vraiment données lorsqu'elles sont ressaisies dans notre mémoire et recréées dans notre parole. Et c'est ça. Quand il fait l'expérience de la Madeleine, Proust, bien sûr qu'il y a quelque chose d'extérieur, apparemment cette Madeleine, qui va, le goût de la Madeleine trempée dans du thé va lui rappeler ce que lui donnait sa tante Léonie, et va ressusciter tout le monde de Combray, de son enfance, non pas de l'extérieur à partir de la mémoire volontaire, mais comme une sorte de résurrection intérieure, et il va produire cette œuvre, écrire cette œuvre, La recherche du temps perdu, et il dira, c'est pas comme si je connaissais l'extérieur, je n'accède vraiment aux choses que lorsque je les recrée intérieurement. Et c'est ça, hein, c'est-à-dire que la connaissance est intérieure, c'est une recréation intérieure. Si je veux vous connaître, c'est pas simplement en vous demandant votre pédigré, c'est vraiment en vous ressaisissant de l'intérieur à partir de ma propre intériorité. Et à ce moment-là, j'ai accès, d'une certaine façon, à l'intériorité de l'autre, mais c'est depuis ma propre intériorité. Je pense qu'au fond, Leibniz donc, envisage un monde où le monde tout entier est comme réfracté dans chaque monade, selon ce qu'elle est, c'est-à-dire à l'échelle d'un animal, et c'est pas pareil quand c'est une étoile de mer ou quand c'est un chien, voyez, mais c'est le monde tout entier qui est réfracté, et puis il est réfracté dans chaque individu. Et vraiment, chaque individu est comme séparé radicalement des autres, mais coordonné à l'autre, parce que Dieu a fait en sorte que ces intériorités radicales soient dans une correspondance préétablie.
Mais alors, comment se fait-il, si l'univers entier est ressaisi dans chaque monade, que toutes les monades ne pensent pas ou ne voient pas la même chose ?
Mais ça c'est la richesse de Dieu pour Leibniz. Dieu donne sa gloire non pas en créant un monde, mais en créant des mondes. Et que des intériorités, que des mondes intérieurs. Mais plutôt que de voir le fait qu'il y a des objets juxtaposés dans le monde, eh bien non, il y a autant de mondes qu'il y a de monades. C'est ça qui est... Et donc, ça donne une vision comme vertigineuse, à couper le souffle. Enfin, quand on y réfléchit, cette perspective spirituelle sur le monde, cette perspective à partir de l'intériorité, où il n'y a pas de monde extérieur, mais où il n'y a que des intériorités qui ressaisissent des séries d'intériorités qui sont, voilà, qui apparaissent comme des composés, en fait, justement, pour elles, mais qui, en fait, les ressaisissent toujours intérieurement. Donc, imaginez le monde tout entier tel qu'il a été vécu par tel... Je parle tout le temps du chien, bon, on va changer, on va prendre, je sais pas, un tel pigeon, voilà, qui a traversé la ville de Paris, qui a, voilà... nous, on pourrait dire, bah, oui, c'est ce monde intérieur, il y a eu un monde, il y a eu un événement de vie, et c'est ça qui est la réalité pour Leibniz. C'est pas l'objet pigeon qui a été à un moment donné, non, c'est cette manière dont tout, le tout était dans ce pigeon. Voilà, tel qu'il le percevait. Et donc, il y a des milliards et des milliards et d'innumérables mondes. Et la toute-puissance divine, c'est le fait d'avoir su coordonner tout ça, voilà, d'harmoniser tout ça ensemble. Et j'avoue que voilà, cette thèse, elle est pas très empirique, elle est très spiritualiste, mais elle est séduisante parce qu'elle montre la richesse des mondes intérieurs. Voilà.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Leibniz, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les samedis à 10h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.